Kiosque Magazine.
Bonjour et bienvenue à votre émission Kiosque Magazine du 14 janvier 2015. Vous êtes en compagnie de Dominique Meillet, de Janine Petitbois.
Bonjour, bonjour Janine. Bonjour, ça va bien.
De Sophie Chevance.
Allô.
Aujourd'hui, moi, je vais vous parler du big data. Faut-il en avoir peur? Et toi, Janine, tu vas nous parler de quoi?
Ton big data, toi, ben moi, je te dis, alors, je parle de la nouvelle année. Comme on sait, on doit toujours la démarrer du bon pied. Alors, j'y vais avec ça. Et pour quelques soins de au secours, ma peau craque et savoir bien la nourrir. Et je vais vous sortir aussi la nouvelle génération dans le foodie.
Ah, super! Et oui. Toi, Sophie, tu vas nous parler de quoi alors?
Alors, cette semaine, en ce qui me concerne, je vais vous parler en fait des produits du terroir et des plaisirs de l'hiver au Québec. Parce que chaque endroit sur Terre possède son lot de plaisirs singuliers, de traditions et d'activités. Alors, j'y vais avec ça cette semaine.
Super. Ben, à tout de suite.
Eh bien, alors, comme je disais, cette année, on démarre l'année du bon pied. Un article par Mylène Tremblay dans notre Châtelaine de janvier 2015. On sera bien dans sa tête et dans son corps en 2015. Eh oui, on va essayer. Voici quelques pistes d'action que proposent 5 experts, une psychologue, un pharmacien, un physiothérapeute, une nutritionniste et une sexologue. Donc, bien se connaître. Respecter ses limites, de faire les bons choix, voilà ce qui compte vraiment, selon la psychologue Rosemarie Charret. Personne n'est à l'abri de la fatigue. L'important est de se donner les moyens de se reposer, de se divertir. Idem pour l'anxiété et la tristesse. Il faut trouver des façons de se détendre et de s'entourer de joie, dit-elle. Désamorcer la chicane. Il y a des tensions dans l'air. Pour maintenir une bonne santé psychologique, on veille à résoudre ces conflits le plus simplement possible. Ce qui ne veut pas dire de tout régler, mais de chercher plutôt ce qu'on peut changer dès maintenant pour faire baisser la colère, précise Rosemarie Charret. Apprivoiser la solitude. Comment faire pour ne pas se perdre de vue dans le brouhaha de la vie quotidienne? Se donner des rendez-vous fréquents avec soi-même. Autrement, on finit par avoir peur de la solitude et on s'enferme dans des relations malsaines, dit la psychologue. La clé, alterner des moments de socialisation et d'intériorisation. Se responsabiliser. Chacun est responsable de sa santé, rappelle le pharmacien Olivier Bernard, qui anime le site lepharmachien.com. Cela nécessite donc un certain effort. J'amène les gens à adopter de saines habitudes de vie et à comprendre que le médicament ou le produit naturel est un coup de main en appui à un changement de comportement. C'est bête à dire, mais il n'existe aucune pilule miracle pour régler le mal-être de janvier, nous dit-il. Expirer à fond. À bout de souffle, stressé, fatigué, rien de tel qu'une respiration lente et profonde pour se recentrer. Le corps comporte très peu de muscles expirateurs, mais beaucoup de muscles inspirateurs, dit le physiothérapeute Denis Fortier. Expirer permet d'étirer ceux-ci et d'aller chercher plus d'air. À essayer, avant même d'inspirer, expirer lentement, sans avancer la tête, 3 fois pour 15 secondes. Reprendre contact avec ses sensations. Savourer chaque bouchée, cela s'apprend. On mange souvent plus que nécessaire ou sans même éprouver la faim, fait remarquer la nutritionniste Judith Bluchot. Le corps nous envoie des signaux clairs. J'ai des gargouillements, alors j'ai faim. J'ai un sentiment de plénitude. Signifie, je suis rassasiée. J'ai mal à l'estomac et n'a-t-on pas trop mangé? Rééquilibrer son assiette. On consomme trop de viande et de produits céréaliers. Eh oui, nos pains, nos pâtes en tête, nous rappelle la nutritionniste. Primo, on en réduit les portions. Deuxio, on met l'accent sur les légumes. Les végétaux devraient occuper la moitié de l'assiette. Adopter une bonne posture. Quelques exercices à noter. Se sentir bien, c'est aussi ressentir la force et la souplesse de son corps. Pour atteindre ce mieux-être physique, le physiothérapeute Denis Fortier nous encourage à intégrer les exercices ces exercices que je vais vous mentionner dans notre routine quotidienne, en faisant quelques pauses de 2 ou 3 minutes au cours de la journée. Alors, assouplissement du bassin, debout, basculer le bassin de façon à diminuer la courbure lombaire, 15 fois. À noter que le bas du dos est l'une des parties du corps qui bouge le moins. Renforcement des muscles posturaux, debout, la tête et le corps adossés à un mur, les bras en croix, inspirer et expirer 15 fois sans bouger les épaules. Raffermissement des abdos et des pectoraux. Faire 3 séries de 15 tractions, des push-ups au sol sur les genoux ou au mur, le nombril rentré. Maintien de l'équilibre. Se tenir sur un pied, les yeux fermés, 3 fois 15 secondes. À la longue, le manque d'équilibre peut être associé à un risque de douleur au dos. Éducation du plancher pelvien, exercice de Kegel. Contracter les muscles qui retiennent l'urine pendant 15 secondes, tout en marchant, en chantant et en riant.
Tout ça, c'est à faire tous les jours?
Eh oui, ça serait bien de prendre...
j'ai du retard! Non,
chacun son tour.
On
alors
peut commencer aussi, à s'y mettre, Dominique.
Je continue. On s'accorde du temps de contemplation. On a de moins en moins d'enfants et on les a de plus en plus tard. Souvent, toute l'attention se porte sur eux. S'accorder des vacances à deux, c'est bon pour les parents et pour toute la famille. Ce bonheur rejaillit entre autres aussi sur les enfants.
Alors, en ce qui me concerne, je vais vous parler donc des produits du terroir québécois avec un article paru dans Le Châtelain de février 2015. Cette semaine, je suis un peu en avance. La semaine dernière, j'étais en retard sur mes dates avec des vieux articles, mais cette semaine, je suis en avance, paraît-il. Alors, au bon goût de chez nous, un article de Sophie Suraniti. Nous sommes gourmands, il y a de quoi. Tournée de ce qui fait notre fierté. Bière et autres alcools, fromage, pain, sirop d'érable. De l'effervescence en bouteille, plus de 125 microbrasseries, des microdistilleries qui fleurissent, de gin, de vodka, des hydromels, des sommelières qui remportent des concours, des vignerons qui bravent dame nature. L'alcool au Québec, pas triste du tout. Les bières vieillies en fût de chêne, les amères de style India Pale Ale et les sûres ont la cote. On les déguste en casque, tonnelées qu'on perce avec un maillet ou en rack, mini-bières servies sur une planchette. Quant aux alcools artisanaux, ils émergent un peu partout avec la montée en puissance des cocktails. Recettes classiques revisitées, mélange rétro fait à partir d'ingrédients locaux, ça shake. Alors, quelques coups de cœur que l'on vous conseille. La bière blanche Dominus Vobiscum de la microbrasserie Charlevoix, une bouteille de 500 ml à 4,75. Le cidre de glace Glossarania Avalanche 2011 qui est à 27,40 à la SAQ. Et une eau de vie qui s'appelle eau de vie de pomme pure légende du domaine La France, 39 $ à la SAQ. Alors ensuite, des cabanes paquetaines. Depuis que le coloré Martin Picard a ouvert sa cabane, ça se bouscule dans le rang, à Saint-Benoît de Mirabel. Même de grands chefs de passage y font un détour et craquent pour cet héritage unique. Merci grand-papa. L'ambiance bonne enfance, débordement de plaisir et de nourriture, des concepts nouveaux genres apparaissent et des cabanes traditionnelles font appel à un chef pour revamper le menu. Le temps des sucres, ben hot. Alors, les coups de cœur, la cabane à sucre du Picbois à Brigham qui produit un vinaigre d'érable sublime. Sénat et sa formule, un chef à l'érable avec un chef invité. Et l'érablière Panache et Boiron de la promenade Wellington dans l'arrondissement Verdun à Montréal. Vraiment pas loin.
À Verdun,
ah ouais, pas loin.
Alors, ensuite, de bonnes pâtes. Qui aurait cru que le pays du fromage de couleur deviendrait en quelques décennies une terre aussi fertile? Le Québec élabore maintenant plus de 400 variétés de fromages et à lui seul environ 60% de la production canadienne, quand même une belle fierté
ah oui,
à avoir,
dis donc, c'est fou.
Soit presque autant que la Suisse, pour vous dire. Parmi elles, 250 créations d'une quarantaine de fromageries fermières. Et la qualité est là. Elle s'illustre dans le cadre de concours nationaux et internationaux. Par exemple, le baluchon de la fromagerie FX Pichet à Sainte-Anne-de-la-Pérade, élu fromage de l'année 2014 au concours des fromages fins canadiens, et le Zachary Cloutier de la fromagerie Nouvelle-France à Racine, deuxième dans sa catégorie au concours de l'American Cheese Society en 2013. Les savoir-faire que les artisans sont allés chercher ici et ailleurs ont engendré des produits originaux à notre image. Alors, les coups de cœur pour les fromages, le Thalia de la fromagerie du Charme, cheddar au lait cru de brebis affiné 18 mois. Le vin vache de la fromagerie L'Atelier, fait du lait d'un troupeau de 20 têtes, quand même. Et le Pacific Rock de la fromagerie Alexis de Portneuf, pâte ferme vieillie. Alors ensuite, cuisine du monde, cuisine d'ici. Pas besoin d'aller loin pour faire le tour du monde, c'est à portée de fourchette. L'Éthiopie, le Sénégal, le Maroc, la Chine, le Vietnam, le Portugal, l'Italie, le Salvador, le Brésil, la Russie, Madagascar, il y en a.
Ça voyage.
Les Nations Unies sont à table ici. La scène resto est en ébullition permanente avec une génération de chefs qui s'essaient, participent, échangent, collaborent. Leur ingrédient commun, l'enthousiasme. Alors, quelques coups de cœur. À Montréal, la Maison June Rose, buffet chinois. Sumac moyenne orientale, mezcla nuevo latino. À Québec, Osaka ya ramen et Osaka ya sushi, donc deux restaurants japonais. Et à Sherbrooke, le café classico, cuisine des îles de l'océan Indien. J'y suis déjà allée pour avoir étudié à Sherbrooke et c'est vraiment un très bon restaurant. Ouais. Et enfin, au-delà du pain de mie et du millefeuille, le vrai boulanger, celui qui tend l'oreille pour entendre le chant de ses belles croûtes à la sortie du four, a vu le métier reprendre sa noblesse. Fou le nombre de petites boulangeries qui ont vu le jour, à la ville comme au village. Certains artisans poussent l'audace jusqu'à avoir leur farine exclusive. Agriculteurs, meuniers et boulangers sont reconnectés. Quant aux pâtissiers, ils innovent, ils s'amusent. Pâtisserie de marché, gâteaux de saison, classiques modernisés, ça nivelle par le haut. Mmh. Alors, des coups de cœur pour les boulangeries et les pâtisseries. Alors, nous avons Jola Croûte à Montréal, le pain dans les voiles à Mont-Saint-Hilaire, du bon pain croûte que croûte à Saint-Élie-de-Caxton, boulangerie Niemann à Kamouraska, la boîte à pain à Québec. Et pour les pâtisseries, fou dessert, GNG Pâtisserie Gourmande, Pâtisserie Rhubarbe à Montréal, ces trois-là. Et comptoir de Bruxelles à Vaudreuil-Dorion, le croque en bouche, enfin, à Québec.
Eh bien, ça va être bon, ça.
À fleur de peau, le soleil m'éblouit. Ah, ah, mon cœur prend l'eau en un coup de vent. Mon corps s'oublie. À fleur de peau, me blesse comme autant de fausses promesses. Les belles années, si c'est la fougue vie, l'ivresse des liaisons furtives, c'est aussi mes mélancolies en écho dans la nuit, le souvenir de ta main. Sur ma fleur de peau.
Ah, 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 ah.
Et voilà, c'était une charmante chanson avec notre belle Valérie Carpentier à fleur de peau pour entrer dans mon beau sujet ici. Au secours, j'ai la peau, ma peau craque. Nos charmes de l'hiver. Dois-je changer mes soins pour l'hiver? Un article de Laetitia Beretti dans le Moi et compagnie de décembre 2014, mais je crois toujours d'actualité. Alors, l'arrivée de l'automne et du temps froid sont loin d'être de tout repos pour notre peau. Il n'est pas rare, lorsque le mercure descend, que notre teint se brouille et que notre peau se couvre de plaques sèches. Alors, à défaut de pouvoir rendre la météo plus clémente, on suit ses conseils pour se préparer à affronter l'hiver. La première chose à faire quand les froids sibériens se pointent à l'horizon, comme ce charmant matin d'aujourd'hui, c'est de changer ses soins pour la peau. En effet, puisqu'il s'est exposé au vent, donc souvent déshydraté, notre épiderme a grand besoin de douceur et de confort pour se préparer à l'hiver. Il faut faire attention toutefois à ne pas se jeter automatiquement sur des soins trop riches, car il ne faut pas confondre sécheresse et déshydratation. La sécheresse correspond à un manque de lipides, alors que la déshydratation est due à un manque d'eau. Une peau sèche est souvent déshydratée, mais il est surtout important de la nourrir pour reconstruire sa barrière lipidique, ce qui lui permettra de mieux retenir l'eau. Toutefois, l'inverse n'est pas vrai. Une peau déshydratée n'est pas forcément sèche. On peut avoir une peau mixte ou grasse qui souffre de déshydratation. Dans un tel cas, on opte plutôt pour un soin riche en eau et en agents hydratants. Ensuite, il importe de prendre rendez-vous aussi chez son esthéticienne, qui débarrassera de notre épiderme les cellules mortes accumulées pendant l'été, tout ce qui anticipera les besoins de notre peau à la suite du changement de saison. Faire un tel bilan une ou deux fois par année permet non seulement d'avoir une peau plus belle plus longtemps, mais aussi de faire un suivi régulier de son évolution. Or, pour le vieillissement, la sensibilité cutanée et tous nos petits problèmes de peau. En plus, sur place, on profite d'un soin expert et d'appareils dont on ne dispose pas forcément à la maison. À l'automne, notre peau peut souffrir de déshydratation à la suite des agressions combinées du froid, du vent et des variations de température. En effet, lorsqu'il est confronté au froid, l'organisme diminue sa production de sébum et de lipides. La circulation sanguine ralentit et l'activité cellulaire de l'épiderme décroît. Ainsi, le film hydrolipidique de la peau s'affaiblit et ne remplit plus son rôle protecteur contre les agressions. La solution? Utiliser des sérums et des masques gorgés d'agents hydratants, mais surtout boire de l'eau, car une bonne hydratation vient aussi de l'intérieur. Également, un article dans le même sujet de Jacinthe René, dans le Moi et compagnie de décembre, « Nourrir sa peau ». Vous avez fait le choix de vous alimenter sainement et de nourrir votre esprit? Bravo! Mais qu'en est-il de votre peau, comme elle nous dit? Comme l'épiderme absorbe tout ce qu'on applique dessus, les soins devraient être comestibles. Mais recommandations pour avoir une peau radieuse. Selon Jacinthe, j'ai envie de partager avec vous tous les bienfaits des huiles végétales et essentielles thérapeutiques qui nourrissent ma peau. Grâce à elles, ma peau n'a jamais été aussi resplendissante, aussi saine et aussi jeune, comme on la voit dernièrement régulièrement à la télévision. Comme il n'est jamais trop tard pour protéger, soigner et réparer son épiderme, je vous présente ces matières nobles, 100% naturelles, qui sont d'une efficacité étonnante. Elles sont un merveilleux complément à un style de vie vert, sain et joyeux. Les acides gras, oméga 3 et 6, ont une importance capitale dans le processus biochimique et physiologique de croissance et de régénération cellulaire, de même que dans les mécanismes de défense de la peau. Les oméga 3 préviennent les réactions inflammatoires et maintiennent l'élasticité de l'épiderme, tandis que les oméga 6 contrôlent la diminution de l'eau de l'épiderme. En réduisant la perte d'eau dans les couches supérieures de l'épiderme, les acides gras préviennent la formation des rides naturellement. Les huiles végétales de bourrache, d'onagre, d'argousier et de rose musquée sont riches en acides gras essentiels. Plus particulièrement, l'huile d'argousier est très intéressante parce qu'elle contient 15 types de caroténoïdes qui contribuent notamment à la formation du collagène, à la stimulation cellulaire, à l'élasticité et à la régénération de la peau, à la prévention des rides et au ralentissement du vieillissement des cellules. Parmi toutes les huiles essentielles à privilégier, celle de rose est la plus efficace en raison de sa teneur en cire végétale, unique en aromathérapie. Malheureusement, sa rareté la rend aussi assez chère. Par ailleurs, l'huile essentielle de santal augmente la vitalité et la tonicité des fibres d'élastine et de collagène. Elle est utilisée en Inde et en Indonésie depuis plusieurs années, plusieurs centaines d'années, je dirais, dans les soins conçus pour les peaux iridées. Afin de donner un effet antioxydant et à notre sébum beauté, sérum beauté, je vous recommande d'y ajouter de la vitamine E naturelle et sans OGM qui empêche l'oxydation du sébum et des lipides cutanés. La vitamine E synthétique est à proscrire, la transparente, car elle obstrue les pores de la peau. Côté mode d'emploi, il suffit d'humecter sa peau avec une eau florale avant d'appliquer le sérum. Cette combinaison convient à la routine beauté du matin comme à celle du soir. Nul besoin de crème. Vous en aurez plus si vous désirez plus d'informations sur son site jmagazine.ca.
T'es bien maigre. Chaque année, c'est la même rengaine. Notre tante agrémente ses salutations d'un « toujours petite, toi ». Et notre belle-sœur nous répète à quel point on est chanceuse de pouvoir manger autant sans prendre un gramme. Ils sont nombreux à se permettre de commenter notre silhouette, assumant qu'on est bien dans notre peau puisqu'on n'a pas de livre en trop. Un préjugé tenace qui engendre beaucoup de remarques blessantes, estime la psychologue Catherine Sénécal. Si ces commentaires nous dérangent, Fanny Dagenais, directrice générale et porte-parole de l'organisme Équilibre, nous encourage à ne pas rester muette. Selon elle, la plupart du temps, les gens ne sont pas conscients du mal qu'ils peuvent faire. Bien que ce soit difficile, une réponse calme et sincère, « Je me doute bien que ce n'est pas ton intention, mais ces commentaires me blessent », permettra à notre entourage de mesurer l'impact de ces paroles. Fanny Dagenais estime toutefois que ça ne devrait pas être aux victimes de sensibiliser les gens au poids de leurs propos. C'est pourquoi l'organisme Équilibre a mis en place la semaine « Le poids sans commentaire », qui a pour but de sensibiliser la population au fait que les remarques sur le poids sont très présentes dans notre quotidien. S'abstenir de tout commentaire relié à notre poids et à celui des autres, en voilà une bonne résolution pour l'année 2015.
Eh bien, parlant repas et de perte de poids, voulez-vous que je vous dise une petite chose? Un repas comme un autre, on a tout entendu et peut-être même répété 1000 fois le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Or, voici que 2 études remettent en question cette thèse. Dans la première, le métabolisme de base et les taux de cholestérol et de glucose d'une 30aine de participants sont restés inchangés pendant les 6 semaines où ils n'ont pas déjeuné. Dans la seconde, 300 sujets qui tentaient de perdre du poids ont maigri au même rythme, qu'ils aient mangé ou non le matin. Conclusion, contrairement à l'idée reçue, l'habitude du petit déjeuner aurait peu d'effet sur le poids et le métabolisme. Vous avez la source « The American Journal of Clinical Nutrition ».
Alors, on reste dans la thématique et puis même si apparemment le déjeuner n'est pas si important que ça, j'ai envie de vous parler du jus de fruits. Alors, la modération à bon goût. Sentez le jus de fruits, pas si sûr non plus. Dans une étude australienne, la consommation quotidienne de jus a été associée à une tension artérielle élevée, qui est un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires. Les chercheurs rappellent que le jus contient beaucoup de sucre naturel et qu'il renferme peu des fibres présentes dans les fruits entiers. Alors, par ici, pomme, poire, canneberge et grenade.
Ah ben c'est bon, hein?
Sixties Mania. Parsemé de pois géants chez Valentino, tout de cuir chez Gucci, pailleté et lamé chez Saint-Laurent et ponctué d'une ceinture chez Louis Vuitton, les robes, jupes et manteaux courts donnent le ton dans beaucoup de collections cette saison. Les lignes 60s sont à l'honneur. On fait comment ? Un seul mot d'ordre, du court ou, en tout cas, plus court que d'habitude. Selon nos goûts, on mise sur une robe chasuble, un manteau en ligne A, étroit aux épaules élargies vers le bas, ou une jupe trapèze portée avec une botte haute. Grandes et longues jambes et petites menues seront à leur avantage dans des tenues raccourcies qui mettront leurs jambes en valeur. Pour mettre notre jupe évasée en valeur, on porte le haut à l'intérieur, car un pull ou un chemisier par-dessus la jupe gâcherait tout l'effet de la ligne A. La folie des couleurs du Swinging London n'est pas forcée de revivre jusque dans nos vêtements et on n'a pas envie. Camel, gris foncé, kaki ou noir et blanc sont également de bonnes options. Qui a peur du big data ? De plus en plus de données nous concernant se retrouvent entre les mains de géants du net, tout puissants et mondialisés. Faut-il s'en inquiéter ? C'est un texte par Daniel Gerkens dans le Elle français du 21 novembre 2014. Applications, tweets, appels, surf, les smartphones sont les télécommandes de nos vies. S'y ajoutent nos cartes bleues, tablettes, ordinateurs et l'ensemble des objets connectés. Environnés de capteurs, nos gestes, nos choix, nos goûts, nos relations sont synthétisés sous forme numérique et stockés. Résultat, nous baignons tous dans un monde numérisé. Orwell, Barjavel et Asimov l'avaient un peu anticipé. Nous la vivons en live. La révolution Big Data qui se déroule pourrait bien redéfinir nos sociétés. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le Big Data ? Internet est un espace extensible à l'infini où la masse de données explose. Le big data, c'est la convergence de cette explosion des données et leur traitement en temps réel par des algorithmes. Hors gris du 21e siècle, ces données sont valorisées par ceux qui les stockent et ou y ont accès. Qui émet ces données ? Vous, moi, tout le monde. En 2014, une vingtaine de capteurs équipent nos smartphones, lumière, pression, localisation, altitude. Pour quelques centimes, chacun transmet des informations. Autre trace, celle de nos connexions sur le web, largement alimentées par nos tweets, photos, vidéos, posts, rendues possibles grâce à la puissance de nos objets connectés. La PlayStation 3 de Sony équivaut à l'ordinateur le plus puissant du monde en 1996. Développé par l'armée américaine pour simuler les explosions nucléaires, tandis qu'un smartphone surpasse l'ordinateur de bord de la capsule Apollo 11. Ça fait peur quand même, hein?
Tu parles, imagine.
Les chiffres sont vertigineux. Chaque minute sur Internet, nous envoyons plus de 200 millions de mail. Postons 30 heures de vidéos sur YouTube et lançons 2 millions de recherches sur Google. Et ça s'accélère.
Ça va exploser à un moment donné.
Que disent-elles de nous ? Beaucoup de choses et bientôt presque tout. En 2013, Edward Snowden a révélé que même les chefs d'État étaient surveillés par la NSA. Les géants du net, surnommés GAFA pour Google, Apple, Facebook et Amazon aux États-Unis, et BAT, Baidu, Alibaba et Tencent en Chine, ont eux aussi accès aux milliards de données que nous leur fournissons via nos mails, nos appels et nos connexions. Aujourd'hui, les algorithmes identifient des corrélations inattendues, certaines intéressantes, d'autres fantaisistes, comme celle révélée par Tyler Vigen, étudiant à Harvard, avec son site Spurious Correlations, qui corrèle par exemple le taux de divorce dans le Maine à celui de la consommation de margarine. Qui en est propriétaire ? En Europe, on considère la donnée comme inaliénable, donc non vendable, parce qu'elle reflète l'individu, même si cette donnée est traitée, utilisée par une entreprise. Il s'agit d'un droit fondamental. Avec le phénomène Big Data, cette maîtrise se dilue car les données sont partout et, paradoxalement, nulle part. En clair, les données d'un individu sont utilisables, mais l'individu doit pouvoir garder ses droits sur celles-ci. Il est en droit de savoir où elles sont, de les demander et de les faire supprimer à certaines conditions s'il le désire. Comment sont-elles traitées et par qui ? La possibilité d'extraire des informations via les algorithmes toujours plus sophistiqués et moins coûteux confère aux données une valeur considérable sur laquelle se fondent les valorisations folles des entreprises du net. Un exemple avec WhatsApp, racheté 15 millions de dollars avec 55 employés. Les données des Européens en 2020 sont, elles, évaluées à 1 000 milliards d'euros. Le principe qui prévaut, gratuité des services contre gratuité des données. Si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Qu'est-ce que le Big Data va changer dans nos vies ? Alors pour la santé, par exemple, le Big Data laisse entrevoir une médecine préventive et personnalisée. En croisant les données de l'OMS, des moteurs de recherche et des sites de géolocalisation, HealthMap détecte les épidémies de grippe. L'évaluation des effets secondaires des médicaments est nettement améliorée. Le traitement du cancer se transforme grâce au logiciel qui conseille les oncologues. Mm-hmm. Enfin, l'explosion du Quantified Self, ces appareils connectés récoltant nos données biométriques va entraîner la création de bases de données de santé personnalisées. Dans les transports, le calcul d'un itinéraire optimal en fonction du trafic. À venir bientôt, l'appel d'urgence automatique des voitures accidentées, la conduite assistée, sobre en carburant, le démarrage conditionné à l'identité numérique du conducteur, l'assurance indexée sur les kilomètres parcourus et le style de conduite. À la maison, réglage à distance des thermostats, lumière et volets, réfrigérateurs suggérant des recettes, lampes surveillant le sommeil et nous réveillant en douceur, sondes pour les plantes en pot. Les applications concrètes du Big Data à domicile sont infinies. Et aussi la sécurité, l'éducation, la lutte contre la fraude, l'évaluation des politiques publiques, les loisirs, le sport, le commerce. Dans quel monde voulons-nous vivre demain ? C'est la question fondamentale. Certains y voient les prémices d'un monde merveilleux où les loisirs prendront plus de place. La sécurité sera presque absolue et la santé s'améliorera considérablement. D'autres envisagent un prochain dataclysme. Selon eux, le boom des data entraînerait la destruction de millions d'emplois suite à la robotisation, la fin de la puissance publique, la mainmise sur le monde réel par un septième continent virtuel contrôlé à 90% par de grandes entreprises privées. Cette révolution totale est un enjeu planétaire nécessitant des débats démocratiques, juridiques et philosophiques. Que peuvent les individus face à ce tsunami numérique ? Il faut pousser ces sociétés privées, principaux acteurs du numérique, à plus de transparence, au respect des droits individuels. La confiance est leur fonds de commerce, ils se doivent de la cultiver. Le Big Data est une formidable occasion de revisiter nos principes républicains, la liberté, le respect, l'indépendance, le partage. Les données sauveront-elles le monde ? Seul l'avenir que nous choisirons le dira. La science-fiction est définitivement dépassée.
Bien, moi, je vous amène dans la nourriture. Qu'est-ce que le foodie? On est en foodie, la nouvelle génération, un article d'Annabelle Moreau dans le clin d'œil de décembre 2014. Eh oui, vous avez dit foodie. Le mot foodie a eu 30 ans en 2014. Il a, dit-on, été utilisé pour la première fois par Anne Barr et Paul Lévy dans leur ouvrage « The Official Foodie Handbook, Be Modern, Worship Food ». L'intention des auteurs était satirique. Ils soutenaient, par exemple, que la nourriture devait être élevée au rang d'art ou qu'il fallait utiliser de l'huile d'olive et s'intéresser au bon vin. Autant de concepts pas très à la mode en 1984. Depuis, le terme « foodie » a fait son chemin. Universellement accepté, il désigne maintenant l'ensemble des passionnés des arts culinaires. Eh oui! Vous pouvez les reconnaître de loin. Ils sont déjà dans votre réseau. Certains prennent leurs plats en photo, d'autres posent un nombre incalculable de questions aux bouchers, aux serveurs et aux marchands de légumes. Les foodies ont infiltré la société et, avouons-le, on sourit parfois en coin devant leur profil sur le web. Mais on est aussi un peu jalouse quand ils essaient les meilleurs restos de la planète, surtout que leur passion est contagieuse. Le foodisme laissera-t-il un jour sa place à notre bibitte gastronomique? Difficile à croire quand on voit les restaurants, les livres de cuisine et les émissions culinaires se multiplier comme des lapins, au citron ou au parmesan de Ricardo. Quant à tous ces grands rendez-vous autour de la bouffe, ils ne sont qu'une des manifestations d'un mouvement culinaire qui semble parti pour durer. Le dernier en date à Montréal... YUL Eat, destination gourmande, YUL-EAT, destination gourmande. En septembre, il rassemblait les amateurs de bonne chère sur l'esplanade du Parc olympique. Au menu, soupe et gastronomique, ateliers sur les produits québécois, compétitions culinaires et démonstrations de chefs invités. De la bouffe, encore de la bouffe et toujours de la bouffe. Mais quand sommes-nous devenus si passionnés par nos repas? Ce qui a changé, c'est l'offre, explique Marie-Claude Lortie, chroniqueuse et critique culinaire à la presse. Quand j'ai commencé, il y a une vingtaine d'années, l'intérêt qu'il y a maintenant pour la nourriture et la gastronomie n'était pas là. Des magazines comme Fool ou Lucky Peach n'existaient pas. Ricardo n'avait pas son magazine. Je pense que les blogs et les foodies font partie de cet intérêt général pour la nourriture. Caroline Descostes, elle est blogueuse et rédactrice en chef de Food et Foodies, un magazine en ligne créé à Québec. Un foodie, ça se distingue d'un gastronome, d'un gourmet. Il vit sur le web. Il a un discours cohérent et des connaissances sur l'alimentation ou les produits, par exemple, explique-t-elle. Personne ne s'entend vraiment sur la définition du foodie. Par contre, il est facile d'affirmer que, peu importe où il est dans le monde, le foodie est branché sur son téléphone intelligent et aime faire découvrir des restaurants, essayer des recettes, discuter avec ses abonnés des livres de cuisine et de méthodes pour faire du pain. Des manifestations comme YUL Eat, YUL, excusez-moi, EAT, aurait été impensable il y a 10 ou 15 ans à peine. Une pensée qui rejoint celle de la journaliste Marie-Claude Lortie. On parle trop de l'alimentation d'une façon esthétique et pas assez de manière politique, pense-t-elle. Je suis inquiète et c'est pourquoi je me pose dans mes articles des questions sur les ramifications économiques et sociales de la nourriture et je me demande pourquoi on a délégué notre production alimentaire. Marie-Claude Lortie estime que la gastronomie, la réflexion sur l'environnement et les habitudes de consommation sont des sujets qui vont de pair. Et après plusieurs années à nous questionner sur la provenance des aliments, nous devons maintenant nous questionner sur les conditions de travail des gens qui produisent ce qu'on mange, pense-t-elle. Comment peut-on produire de l'ail en Chine à si bas prix? Ce sont les travailleurs qui écopent à coup sûr, soulève la journaliste. Quand j'en discute avec mon chum, chef cuisinier, et mes collègues journalistes, nous relate Geneviève Vézina, mon plaisir, j'ai l'impression qu'il se passe vraiment quelque chose au Québec sur le plan de l'alimentation. Et cette identité culinaire de plus en plus définit les chefs qui travaillent fort pour mettre des produits d'ici sur leur menu. Tout ça participe d'un nationalisme culinaire. Mais qui gaspille? Selon l'étude de Food Price Watch menée par la Banque mondiale, de 25 à 33 % des denrées produites annuellement par la annuellement pour la consommation humaine sont gaspillées, soit jetées, soit gâchées. 4 milliards de tonnes de nourriture propre à la consommation finissent ainsi à la poubelle chaque année. Et qui sont les pires gaspilleurs? Les consommateurs à la maison. Ils occasionnent 35 % des pertes d'aliments, alors que 24 % sont perdus dans la production et 24 % de la manutention et le stockage. Où est donc passé l'art d'apprêter les restes? Je pense que je vais sortir mon livre de cuisine, moi, là.
Le plus bel hiver de nos vies, la neige en masse, l'amour, la ouate, patins glissant sur Saint-Denis, jardin de glace au-dessus de l'asphalte. Un grand hiver vif comme une claque, mais beau pareil à l'ancien temps. L'oratorio de Sébastien Bach, le bœuf et l'âne, l'or et l'encens. Mon amour aimait l'hiver autant que j'aimais mon amour. La neige blanche était éphémère. J'aimais l'hiver. Le plus bel hiver de nos vies, le bois dans le feu au jour, libre de vivre au ralenti. Remis à demain les rendez-vous. Rien que du blanc par la fenêtre, sous les draps brûle un volcan, de nouveau né dans la tempête, entrelacés comme des amants. Tant que j'aimais mon amour, la neige blanche était éphémère. J'aimais l'hiver. Personne ne la voit venir, Mais quand elle tombe de rue. Une pluie lourde et sans avenir, et sans tendresse dans les rues. L'hiver est mort, titre la presse, à la radio ça parle fort. Congé d'école, dit la maîtresse, et tout partout se fond dehors. La neige blanche est éphémère, j'aimais l'hiver.
Alors, après ce beau titre de Beau Dommage, J'aimais l'hiver, je vais donc vous lire un petit article qui est paru aussi dans Châtelaine de février 2015, intitulé « On aime l'hiver » de Simon Diot. Mais avant ça, j'aimerais vous faire une petite introduction d'un article que j'ai trouvé qui s'intitule en fait « Cet hiver, cessez d'hiberner, participez », qui est paru sur le site de Saine Alimentation Ontario. Les Canadiens sont moins actifs en hiver. Toutefois, cette tendance pourrait évoluer s'ils apprennent que l'activité physique renforce effectivement le système immunitaire et qu'elle facilite par conséquent la lutte contre le rhume et la grippe. De plus, l'activité physique contribue à combattre la dépression, dont le trouble affectif saisonnier, le TAS. Certaines personnes souffrent de cette forme de dépression causée par une exposition insuffisante à la lumière du soleil en raison du raccourcissement des journées pendant l'hiver. Enfin, l'activité physique facilite également le maintien d'un poids santé. Et j'ai vu sur Radio-Canada également que l'exercice physique atténuait grandement l'impact du vieillissement. Alors, les purs plaisirs de l'hiver constituent la principale raison pour laquelle les gens deviennent actifs physiquement et le demeurent tout au long de la saison.
Donc, bouger. C'est
oui.
Ça, hein?
Et oui, c'est ce qu'il faut.
Alors, j'entame mon article. Où c'est la dépression saisonnière? On sort et on communie avec la nature, le froid et la neige. L'hiver au Québec, c'est une tempête d'activité, frisson de plaisir garanti. Un article donc de Simon Diot. Patins, glissades et chocolat chaud. Tradition oblige, presque chaque village du Québec possède son église et son carnaval d'hiver. Partout, c'est la même formule éprouvée à quelques variantes près. Pour nous faire apprécier la blanche saison, anneaux de glace, culture sur neige, aires de glissade, spectacles en plein air et boissons chaudes. Pour les familles, c'est le bonheur total. Au-delà des archi-connues fêtes des neiges de Montréal et Carnaval de Québec, il y a aussi le village sur glace de Robertval, Sainte-Rose-en-Blanc à Laval, le bal en neige à Gatineau-Ottawa, les nuits polaires de Trois-Rivières, le carnaval glisse et glace de Terrebonne, le carnaval de l'île aux Coudres, Alouette. Il y en a quand même pas mal, de quoi donner envie de passer l'hiver au frais. Remède anti-stress, exténué. Sentez-vous, est-ce que vous vous sentez exténué? Pour se remettre sur le piton, quoi de mieux qu'une immersion dans un igloo de détente en maillot de bain? À la source, bain nordique, les curistes font le plein d'énergie dans une structure de neige et de glace illuminée de subtils jeux de lumière. On maximise les bienfaits de la cure thermale en soumettant son corps au massage. Le signature la source, un mélange, c'est le nom du massage, le signature la source, un mélange de techniques thaï californiennes myofaciales et de lomi-lomi avec pierre et huile chaude. Ce spa est blotti à flanc de montagne à Randon. La tête dans les étoiles. Vivre un contact direct avec la voûte céleste tout en étant bien emmitouflé dans son sac de couchage. Voilà l'expérience proposée dans les nouveaux chalets ciel étoilé du parc national du Mont Mégantic. Ces micro-chalets au chic design contemporain se distinguent par leurs dômes vitrés placés au-dessus des lits. Pas besoin de moutons, on s'endort en comptant les étoiles. L'absence de pollution lumineuse dans cette première réserve internationale de ciel étoilé rend le spectacle éblouissant. Les chalets, qui accommodent de 2 à 4 personnes, sont situés dans le secteur de Franceville que sillonne 11 km de pistes de raquettes. Sport de glisse, nouvelle vague. On aime la raquette et le ski. Pourquoi ne pas pratiquer les deux en même temps? C'est possible grâce au ski raquette. Ce nouvel article de sport est connu sous la marque de commerce Hoc. Sa semelle partiellement recouverte d'une peau d'adhérence synthétique aide à monter les pentes sans freiner la descente. Résultat, on grimpe et on dévale à profusion les montagnes en jouant dans la neige folle. De quoi rêver quand même. Cet hiver, la popularité de ces raquettes qui glissent pourrait faire boule de neige. De plus en plus de destinations leur ouvrent des secteurs et en font la location, comme le parc régional du Massif du Sud, la station touristique du Chenet, le parc national des Monts Valin et la forêt Montmorency. Arpents de neige gaspésiens. Événement phare, la traversée de la Gaspésie en ski de fond invite pour la toute première fois les racketteurs à prendre part à la fête. Pendant ce séjour de vacances sportives tout inclus qui se déroulera du 21 au 28 février, des parcours de 10 à 20 km seront proposés tous les jours aux marcheurs sur neige qui profiteront du même encadrement que les fondeurs, avec guides chevronnés et petits remontants sur les pistes. Cette année, les participants entreprendront leur voyage festif dans le parc national de la Gaspésie et passeront par Percé avant de terminer leur course. Comme des conquérants en Abitibi. L'Abitibi, voilà une région méconnue qui recèle pourtant de véritables pépites d'or, comme le parc national d'Aiguebelle pendant la saison froide, c'est la destination pour découvrir le pays de Richard Desjardins en ski ou en raquette à la manière des premiers explorateurs. On peut s'y balader dans les failles de la croûte terrestre où logent maintenant des lacs profonds. Impossible de résister à l'envoûtement des parois rocheuses de 30 mètres de hauteur avec leurs coulées de glace. On y passe la nuit, à la chaleur du feu, dans des refuges rustiques uniques. Service de transport de bagages aussi disponible. Luge alpine de nuit. À Vallée du Parc, c'est en traîneau que ça se passe. Cet hiver, la petite station de Grand-Mère en Mauricie ouvre une piste étroite longue de 2,2 km réservée aux lugeurs. Les braves pourront la dévaler à la nuit tombante en s'éclairant à la lampe frontale comme le veut la tradition européenne. Sur le vieux continent, les lampées de schnapps instillent du courage aux participants. En Amérique, on est invité à boire après. Cette activité guidée est offerte en bloc de 3 heures le jour ou de 2 heures la nuit avec descente illimitée pour les 10 ans et plus. Culture sous les flocons. Et si à Montréal, les journées sont froides en janvier et en février, on le voit encore même aujourd'hui, on l'a testé ce matin, les nuits sont hautes. Du 16 janvier au 8 février, l'Igloo Fest réchauffe l'atmosphère avec ses parties de musique électronique dans le Vieux-Port, puis Montréal en lumière prend la relève du 19 février au 1er mars. Si on suffoque entre quatre murs, on ira flâner place des festivals avec mise en scène de lumière et spectacles gratuits. La programmation de cet endroit magique sera dévoilée début février. Et du 28 février au 1er mars, les insomniaques s'amuseront pendant la fameuse nuit blanche à Montréal. Sur deux roues, fini le temps où les cyclistes entraient en hibernation. Excusez-moi. En ville, ils patauchent dans la gadoue tandis qu'à la campagne, ils envahissent la forêt au guidon de leurs fat bikes. Ces nouveaux vélos, à la source d'un buzz sur la planète cycliste, possèdent des pneus surdimensionnés qui leur permettent de rouler sans problème dans les sentiers de raquettes. Plusieurs destinations, dont le parc national d'Oka, le parc de la gorge de Coaticook, canton de l'Est, et la vallée Bras du Nord, dans la région de la capitale nationale, font la location de ces vélos un peu bizarres. Bienvenue à l'ère de la bécane 4 saisons. Camping d'hiver sans congélation. Pour camper même sous zéro, Parc Canada a trouvé la solution. Les tentes authentiques. À mi-chemin entre le chalet rustique et la tente de prospecteur, ce mode d'hébergement propose une formule tout inclus dans le rude hiver canadien. Spacieux et chaleureux, les abris triangulaires sont réchauffés par le doux crépitement d'un poêle à bois. Même quand le vortex polaire s'abat sur l'Amérique du Nord, la température demeure très agréable à l'intérieur. Les 13 tentes se dressent dans le secteur Saint-Jean-des-Piles, au Parc national de la Mauricie, à même le réseau des sentiers de raquettes. Un pavillon de service chauffé, ouvert jour et nuit, sert de refuge en cas de problème. Un pied-à-terre parfait pour jouer dans les grands espaces. Entre les glaces de Québec, affronter les glaces dérivantes du Saint-Laurent à bord d'un canot, on ne peut imaginer aventure plus givrée. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous s'y mettre. L'entreprise Canot à glace Québec propose des sorties de 3 heures en partance de Lance Brown au pied des plaines d'Abraham. À mi-parcours, on fait la pause sur la banquise dérivante en sirotant un chocolat chaud ou un cidre de glace. Des guides comptant au moins 5 ans d'expérience accompagnent les apprentis canotiers. Et enfin, je termine avec Vue sur les arbres. Dans son enfance, qui n'a pas rêvé de dormir dans un arbre? Pour réaliser ce rêve, on se rend au refuge Perché Mont-Tremblant. 10 cabanes suspendues avec lit, poêle à bois, table à manger et attirail pour faire la cuisine ont poussé dans la magnifique forêt du centre touristique et éducatif des Laurentides à Saint-Faustin-Lac-Carré. On s'y rend en raquette et on transporte ses bagages en toboggan. Une expérience sans pareil pour retrouver son cœur d'enfant.
Eh bien, notre émission est déjà terminée. Moi, je vous quitte pour quelques semaines. Je serai de retour le 11 février.
Et
je vous
laisse par vacances.
Mais je vous laisse en très bonne compagnie avec Janine et Sophie. Voilà. Un grand merci à Jean-Sébastien Laliberté pour sa mise en onde et ses excellents choix musicaux, comme d'habitude. Si vous avez des commentaires, vous laissez un message au 1-800-361-0635, poste 220. Ou sur notre site de canalm.org. À très bientôt.
Eh bien, bonnes vacances, à bientôt.
Bye.